2024, rencontre avec Lucie Forté, devenir athlète de haut niveau. Alors, direction Université Paul Sabatier, bâtiment Paul Sport, côté du canal, pour rencontrer Lucie Forté au deuxième étage, sociologue du sport. Paris 2024, Rencontre avec, est une série de rencontres avec le monde sportif. Aujourd'hui, nous découvrons le livre de Lucie Forté, Devenir athlète de haut niveau. Dans une approche sociologique, elle nous fait mieux comprendre les processus qui amènent un ou une athlète à s'engager dans une carrière sportive. Nous parlons des JO, de la vocation des athlètes, du rôle des institutions sportives, de la famille dans l'adhésion ou non d'une carrière de haut niveau. Nous abordons aussi les questions du financement des athlètes, de la place des femmes dans le sport et de l'héritage des JO Paris 2024 dans la société française. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour. Eh bien, je m'appelle Lucie Forté. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul Sabatier, au laboratoire du CRESCO, et je suis sociologue du sport.
Pourquoi avoir voulu travailler sur le milieu du sport de haut niveau ?
Alors, quand on choisit un sujet de thèse, parce qu'en l'occurrence, ça a été le sujet par lequel je suis rentrée dans la recherche, souvent, on est quand même attiré par des sujets qui concernent des thématiques auxquelles on a été confronté ou sensibilisé. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, j'étais athlète, très investie dans ma carrière sportive, en tout cas quand j'étais un peu plus jeune. Et voilà, c'était d'une certaine manière des questions que je me posais à titre personnel et que j'ai eu envie de travailler d'un point de vue plus scientifique.
Quel sport vous pratiquiez ?
Oui, je faisais de l'athlétisme et plus particulièrement du 100 longueur et du 100 mètres haies.
À quel niveau ?
Alors, à quel niveau ? À un bon niveau national. Le plus haut niveau, pour moi, ça a été de faire les championnats de France élite. Quelques podiums aux championnats de France jeunes. Voilà, mes jeunes, c'est-à-dire quand j'étais... je ne me souviens plus si j'étais cadette ou minime. Enfin, ça date, on va dire. Voilà, jamais en équipe de France, jamais à haut niveau, en tout cas au sens du statut délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Les Jeux Olympiques 2024, ils approchent. Quels sont les enjeux symboliques d'une telle compétition en France, aussi bien pour les sportifs de haut niveau que aussi pour les Français ?
Alors, les enjeux d'une telle compétition, c'est d'abord évidemment l'image de la France, c'est-à-dire voilà, l'image d'un pays à l'étranger. Accueillir un tel événement, ça participe entre guillemets du rayonnement, on va dire, d'un pays sur le territoire international, puisque c'est une compétition qui fait partie des événements sportifs les plus suivis dans le monde. Pour ce qui est des Français, je ne saurais vous dire, c'est un sujet bien complexe, la question de ce que ça rapporte et de ce que ça coûte. Je pense qu'il faudrait peut-être interroger des collègues qui travaillent sur ces questions, plutôt du côté de l'économie, en fait, des collègues plutôt économistes du sport. En tout cas, pour les sportifs français, je crois que voilà, quand une compétition majeure est organisée dans son pays, c'est quand même quelque chose, voilà, un plus, parce que on a d'une certaine manière un public avec soi qui est plus nombreux, et on sait que ça peut porter les sportifs. Et puis, plus largement, quels sont les enjeux des Jeux Olympiques pour les sportifs d'une manière générale, qu'ils soient français ou pas? Ben, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans et bien y figurer, construit d'une certaine manière la carrière du sportif, parce qu'au-delà de la médaille, après, évidemment, on va pouvoir la valoriser de différentes manières pendant 4 ans. Aussi au plan économique, hein, on y reviendra, je crois, dans les questions que vous voulez me poser, la question de voilà comment mener une carrière sportive de haut niveau. Donc les Jeux Olympiques, bah, c'est un gros coup de projecteur sur des individus, des sportives et des sportifs. Donc c'est, je dirais, voilà un moment clé dans la carrière. Ça arrive qu'une fois tous les 4 ans. C'est très important pour un sportif ou pour une sportive, particulièrement dans les sports qui sont peu professionnalisés. Voilà, il y a des sports dans lesquels il y a d'autres événements majeurs, il y a d'autres compétitions aussi dans un circuit professionnel qui font que voilà, les sportifs et les sportives ont de quoi financer leur vie de sportif, on va dire, qui en fait une activité qui s'apparente à un métier, même si c'est pas un métier à proprement parler. Mais dans des sports voilà, plus confidentiels, moins médiatiques, eh bien vraiment, l'étape Jeux Olympiques est une étape à ne pas manquer.
Alors, les médias présentent généralement les athlètes de haut niveau comme des surhommes ou des surfemmes, ayant des prédispositions physiques naturelles aux exploits. En quoi la sociologie et vos recherches apportent justement un regard un peu différent sur la question ?
Oui, tout à fait. Bien, c'est vrai que la figure médiatique du champion ou de la championne se construit beaucoup autour de ce mythe, entre guillemets, de l'Olympien, du héros moderne, qui serait effectivement un surhomme, un demi-dieu. Hein, on le voit bien dans les métaphores qui peuvent être employées dans les médias, souvent quand il est question d'équipe sportive ou de champion ou de championne. La sociologie, ce qu'elle vient apporter, en fait, c'est justement d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui, au-delà de l'individu, voilà, que les médias vont qualifier de surhomme, qu'est-ce qui, au-delà de l'individu, a forgé son expertise, ses compétences. Donc, d'une certaine manière, on déconstruit un petit peu ce mythe du surhomme ou de la surfemme, d'ailleurs, on pourrait dire, en essayant voilà, de voir comment un environnement social, des institutions sportives, mais pas seulement, parce que finalement, d'autres institutions, l'institution scolaire, la famille, peuvent jouer un rôle important. Voilà, on essaie un petit peu de déconstruire les choses. Alors, il ne s'agit pas de nier le fait que ces champions et ces championnes ont des qualités physiques assez exceptionnelles, à un moment donné, une anatomie, une physiologie qui a fait aussi leur expertise. Mais nous, on va venir essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui... au-delà de ces qualités physiques, de ces éléments qui renvoient à ce mythe du surhomme et qui renverraient à une biologie ou une anatomie un petit peu hors norme, nous, on essaie aussi de comprendre comment un environnement contribue aussi à ces performances. Et d'ailleurs, on a peut-être toutes et tous, si vous avez été un petit peu sportif compétiteur, en tête, peut-être, dans notre jeunesse, des gens avec qui on s'est entraîné, qui crevaient l'écran, qui avaient des qualités physiques extraordinaires, qui ressemblaient peut-être à ces surhommes et à ces surfemmes, et finalement, qui ne sont pas devenus des champions. Justement, la sociologie, souvent, permet de comprendre un petit peu ces trajectoires qui n'arrivent pas à terme. Et souvent, voilà, on trouve finalement, dans cette question de l'environnement du champion ou de la championne, des éléments qui permettent de comprendre où est-ce que ça a bloqué d'une certaine manière.
Comment en France, un sportif amateur lambda, justement, va rentrer dans un projet de vie tourné vers le sport de haut niveau et dans la compétition ? Vous parlez de carrière athlétique. Donc, quelles sont les différentes étapes pour un sportif entre le sport amateur et le moment où on part dans une carrière athlétique ?
Oui, alors moi, mon postulat de départ, c'est qu'en fait, le monde du sport, il est construit par des réalités objectives. C'est-à-dire qu'on peut objectiver par des niveaux de performance. Alors, c'est encore plus facile dans les sports de compétition qui sont chronométrés. On peut objectiver comme ça des étapes qui permettent finalement de dire, bon ben voilà, le sportif, il est débutant pour commencer, puis il commence à faire de la compétition. Il a un niveau départemental, régional, puis national, puis international. D'une certaine manière, voilà, il y a des statuts, il y a des étapes objectives à la carrière sportive de haut niveau. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à chacune de ces étapes, il y a finalement ce qu'on appelle, nous, en sociologie, des réalités subjectives, c'est-à-dire un rapport à la carrière, un rapport au corps, un rapport à l'effort qui évolue, en fait. Et d'une certaine manière, justement, l'environnement du sportif va participer, contribuer ou pas, d'ailleurs, à lui permettre d'évoluer dans son rapport au corps, à la carrière, à la pratique, etc. Pour vous donner un exemple concret, peut-être, eh bien, typiquement, le sportif, il va au fur et à mesure, et c'est très progressif, parce que si ça se fait, si on lui demande trop brutalement d'évoluer dans son rapport à l'activité, la plupart du temps, ça se solde par une sortie de carrière, c'est-à-dire qu'il arrête, il change de sport parce que c'est trop brutal. Il faut l'accepter, entre guillemets, parce que ça a un coût, c'est coûteux de changer, de se transformer. Donc, par exemple, voilà ce que le sportif ou la sportive va devoir apprendre dès lors qu'on construit avec elle ou lui un projet de compétition, ben, c'est à différer son plaisir. Un enfant, quand il commence à faire du sport, en général, hein, il vient pour s'amuser avec ses copains. Et donc, il est dans une logique de plaisir à court terme, de plaisir dans l'instant. Petit à petit, si on veut construire un projet de performance avec lui ou avec elle, on va devoir passer par des séances d'entraînement qui ne sont pas forcément amusantes, qui sont parfois même physiquement éprouvantes. Et il va falloir lui apprendre finalement à construire différemment son rapport au plaisir, son rapport à l'activité et à différer son plaisir. Si on revient à la question de tout à l'heure sur les Jeux Olympiques, bien voilà, un champion ou une championne de ce niveau-là se projette sur 4 ans, c'est-à-dire construit, entre guillemets, des projections à 4 ans. Et d'une certaine manière, voilà, la projection vers ce moment voilà, qui est un peu un point d'orgue dans une carrière, dans une voilà, olympiade, peut l'aider, entre guillemets, à supporter au quotidien des séances d'entraînement, une vie qui est quand même, bien sûr, on la voit comme enchantée, merveilleuse de l'extérieur, nous, public, parce qu'on les voit dans des moments festifs qui sont les moments des compétitions, qui nous paraissent d'ailleurs en tant que spectateurs festifs, qui ne le sont pas forcément pour eux dans l'instant. Mais en réalité, le quotidien d'un champion ou d'une championne, c'est beaucoup de contraintes, en fait, et beaucoup de travail. C'est quelque chose, voilà, qu'on n'obtient pas du jour au lendemain. Alors, je vous ai donné l'exemple du rapport à l'effort, mais on pourrait parler du rapport à la blessure aussi. Parce que, par exemple, devenir un grand champion ou une grande championne, c'est à la fois, nous dit Bruno Papin, par exemple, qui a travaillé sur les gymnastes de haut niveau, apprendre à user son corps sans jamais l'user. Donc, c'est apprendre à la fois à pousser son corps dans des zones rouges, hein, aller explorer ses limites, d'une certaine manière, se faire mal. Hein. Les sportifs, vous direz, c'est se filer à l'entraînement. Mais en même temps, c'est apprendre à en prendre soin, c'est apprendre une certaine hygiène de vie, c'est apprendre voilà, à détecter aussi au moment où on s'approche un peu trop de cette limite, de cette zone rouge, savoir lever le pied. Donc c'est finalement être pas dans un rapport un peu schizophrénique à son corps, mais pas loin. Et donc ça aussi, ça s'apprend, parce que souvent, bah, vous avez des profils de jeunes qui vont être plutôt voilà, des gens qui savent aller titiller leur corps et aller plutôt dans la douleur et dans le fait de lui faire mal. Et vous avez à l'inverse des gens qui vont être plutôt voilà, dans un rapport au corps qui les amène à faire attention, ne pas se blesser, etc. Et donc, le champion doit trouver cet équilibre. Et là aussi, c'est quelque chose qui s'apprend étape par étape, je dirais.
Alors, les athlètes parlent généralement de vocation. J'ai toujours été fait pour ça. C'est le sport qui m'a choisi comme un élément essentiel de son engagement dans sa carrière athlétique. Dans votre livre, vous relativisez celle-ci, la question de la vocation. Pourquoi ?
J'appartiens à un courant de sociologie qui travaille justement sur ces questions de vocation, hein, et de rapport, on va dire, vocationnel à l'engagement dans une activité. Alors moi, je travaille sur le sport de haut niveau, mais d'autres travaillent sur les vocations religieuses ou les vocations artistiques, par exemple. Et en fait, ce que l'on constate dans nos travaux, c'est que finalement, effectivement, les individus ont souvent reconstruit, souvent a posteriori, leur carrière sur le mode de « j'ai toujours été fait pour ça, depuis toujours, je savais que je voulais être voilà, champion » ou j'avais ça en moi, etc. Or, en fait, quand on observe un peu mieux, et même parfois même dans les entretiens, on observe que finalement, ils n'ont pas toujours ce discours, que c'est presque un discours que malgré eux, en fait, ils ont construit sous l'effet finalement d'une socialisation, je dirais, dans un environnement voilà, qui finalement les amène à se penser comme ayant été finalement fait pour ça, ayant des prédispositions. Par exemple, derrière le vocabulaire de la vocation, dans le sens commun, il y a cette idée qu'on aurait quelque chose un petit peu de hors norme, qui fait d'ailleurs de nous des demi-dieux, entre guillemets, des surhommes, des surfemmes, etc. Et c'est vrai que dans l'univers sportif, on se construit beaucoup cette idée du talent, c'est-à-dire de quelqu'un qui aurait des qualités physiques, par exemple si on prend le cas de l'athlétisme, des qualités physiques exceptionnelles qui expliquent, entre guillemets, la réussite. Par exemple, dans les sauts, on va entendre voilà, que quelqu'un a du pied pour exprimer ses qualités détente. Et finalement, tout cela gomme tout le travail qui est fait aussi, technique, de préparation physique, etc., qui font aussi le pied, entre guillemets, d'un athlète, c'est-à-dire ses qualités de détente. Donc derrière cette idée de vocation, il y a d'une part voilà, un espèce de vocabulaire, de registre sémantique qui est souvent convoqué dans le milieu sportif, mais pas seulement. Hein. C'est la foi dans la vocation sacerdotale, par exemple. Ça va être le génie chez un artiste. Il y a voilà, tout un vocabulaire qui construit cette figure, entre guillemets, de l'individu qui aurait été fait pour ça et qui gomme un petit peu tout le travail, en fait, qui construit l'expertise de l'individu. Puis derrière cette idée de vocation aussi, et cette idée qu'on a toujours été fait pour ça et que c'est un projet qu'on porte en soi finalement et qui nous dépasse, ça gomme aussi d'une certaine manière tout le travail des institutions qui sélectionnent, qui consacrent, qui vont marquer symboliquement un individu et finalement, au travers de ces marquages symboliques, appeler l'individu à se sentir comme l'élu de ce monde un peu extraordinaire et enchanté qu'est le monde du sport de haut niveau. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de marquage symbolique ? Ben, c'est par exemple les médailles, les cérémonies protocolaires. Voilà, on voit bien comment, quand on discute avec des champions, ils vous parlent tout le temps des médailles, leur objectif d'avoir une médaille de plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Et on voit bien finalement au travers de leur rapport aux médailles et à ce qu'on pourrait appeler du capital voilà, sportif qui construit finalement leur capital symbolique, on voit bien derrière finalement tout ce travail finalement de l'institution sportive qui, au travers de ces championnats, vous avez parlé des Jeux Olympiques par exemple, eh bien, met en scène quelque chose qui finalement construit les vocations aussi, construit les vocations des jeunes champions en herbe qui se projettent, hein, qui voient ça à la télé et qui espèrent un jour en être. Et évidemment, construit aussi les vocations de ceux qui en sont, qui participent à ces grandes compétitions, au travers de ces moments voilà, très, très forts que sont les cérémonies protocolaires. Hein, c'est vraiment quelque chose de très, très important dans la construction des vocations. Les vocations aussi, elles sont d'autant plus fortes que le champion ou le jeune champion se voit reconnu comme tel par quelqu'un qui, d'une certaine manière, fait particulièrement office de personne légitime dans le milieu. Vous voyez quand, à un moment donné, votre médaille d'or aux Jeux Olympiques, elle vous est remise par voilà, quelqu'un qui a un certain prestige. Je ne sais pas, Sergueï Boubka qui va remettre une médaille à Renaud Lavillenie. Vous voyez, à un moment donné, tout cela aussi participe à la construction des vocations. Il y a cette idée, d'une certaine manière, qu'on fait partie d'un monde à part et qu'on est invité par des demi-dieux, pour reprendre ce dont vous me parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce mythe de l'Olympien. Voilà, on est invité par des demi-dieux à finalement continuer d'écrire cette histoire du mouvement olympique et à suivre leurs pas. Voilà, le sociologue, il vient observer ce milieu et au travers de la manière dont ce milieu fonctionne, il constate finalement qu'il y a tout un tas d'ingrédients qui construisent, consolident ce rapport vocationnel à la pratique qui est essentiel parce que finalement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, devenir champion, c'est extrêmement coûteux. C'est une vie aussi de sacrifice. Et finalement, pour accepter le coût de la conversion à un projet de vie extrêmement contraignant, on va dire que c'est plus facile à faire quand on a construit un rapport vocationnel à la pratique et qu'on se sent finalement appelé à faire partie de ce monde et que, d'une certaine manière, on construit l'idée que ça nous dépasse, qu'on était fait pour ça, hein, d'où cette idée de vocation.
Justement, un projet de vie athlétique est très contraignant. Vous parlez de style de vie ascétique, centré sur les entraînements intensifs. La phase de récupération aussi qui fait partie de ces moments. Tout est pensé, même le moment où il faut s'arrêter. on va dire, il est presque chronométré. Les calendriers des compétitions sportives, tout est fait pour pas détourner l'athlète de l'effort. Celui-ci doit régulièrement renoncer à des moments conviviaux ordinaires, comme des fêtes de famille, vacances ou sorties entre amis. Comment l'athlète peut-il objectivement choisir de faire autant de sacrifices ?
Loïc Vacan, par exemple, sur les boxeurs, alors il travaille pas sur les boxeurs de haut niveau, mais il parle d'un engagement corps et âme. Voilà, on est vraiment dans une logique d'engagement corps et âme pour son sport, pour son projet de performance, là, dans le cas des sportifs de haut niveau. Et finalement, pour ce faire, pour finalement construire ce projet de performance, il faut rentrer dans une vie, Bruno Papin a cette expression, à contre-temps et contre-espace. Hein, c'est-à-dire qu'un jeune, classiquement, un jeune adolescent, sa vie, elle est rythmée par le temps scolaire. Son calendrier, c'est une semaine classique avec des jours de classe, un week-end, des vacances scolaires, etc. Son temps, c'est le temps scolaire. Eh bien, un jeune collégien, s'il est sur un sport de maturité précoce comme la gymnastique, ou un jeune ou une jeune lycéenne pour des sports à maturité plus tardive, ben, ce qui rythme son temps, c'est plus du tout, ou plus seulement, on va dire, le temps scolaire, c'est aussi le calendrier sportif. Et donc, on a à un moment donné une vie à contre-temps. Et puis, on a aussi une vie à contre-espace parce qu'on vit souvent, dès qu'on commence à être, à faire partie d'une élite et qu'on rentre dans des structures d'entraînement, de performance, on va s'entraîner dans un pôle, on va éventuellement être interne ou à l'INSEP. Et à partir de là, on vit aussi à contre-espace, c'est-à-dire dans un espace qui est séparé du monde ordinaire. D'ailleurs, qui a des barrières symboliques, on n'y rentre pas comme ça, s'entraîner à l'INSEP. Il ne suffit pas d'avoir un projet de performance, il faut aussi avoir un certain niveau et être retenu dans un groupe d'entraînement. Et puis, les sportifs parlent souvent de ces mondes-là comme d'une bulle, avec cette idée qu'on, c'est un espèce de cocon, un monde à part, véritablement.
En quoi, justement, l'État français, à travers les institutions comme l'Institut national du sport et de l'expertise de la performance, donc l'INSEP, que vous avez cité, décliné notamment par les centres de ressources d'expertise de la performance sportive, donc les CREPS, joue-t-il un rôle important dans la carrière d'un athlète ?
L'État joue un rôle important en ce sens que l'État, d'une certaine manière, contribue à leur formation. Puisque finalement, quand ils s'entraînent dans un pôle où l'INSEP, en l'occurrence, abrite plusieurs pôles France, donc quand ils s'entraînent dans un pôle Espoir ou dans un pôle France au sein des CREPS ou au sein de l'INSEP, les entraîneurs qui encadrent la pratique sont des cadres techniques issus des fédérations sportives qui sont professeurs de sport et donc qui dépendent du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc ils sont, d'une certaine manière, en tout cas pour la plupart d'entre eux, il peut y avoir des exceptions, mais du coup, des salariés du ministère de la Jeunesse et des Sports qui sont mis à disposition des fédérations françaises, fédérations sportives. Donc, en ce sens, l'État français, et c'est une spécificité, ça n'est pas du tout systématique, ça n'est pas le cas dans d'autres pays. L'État français, au travers de ce système, participe fortement à la formation des compétences des champions et des championnes. Rajoutons à cela que l'État aussi, au travers de tout un tas de possibilités, notamment de conventions ou de systèmes de mécénat, met en place aussi via des partenariats ministère de la Jeunesse et des Sports et entreprises ou autres ministères de la fonction publique, met en place des partenariats qui permettent à des champions et des championnes, une fois qu'ils ont terminé leurs études, de travailler dans le secteur public ou privé, mais d'être déchargés, entre guillemets, d'un certain volume horaire de travail pour le consacrer à leurs entraînements. Et là, ça s'appuie sur des montages, des conventions qui impliquent le ministère de la Jeunesse et des Sports pour compenser auprès des services publics ou des entreprises le temps que le champion ou la championne ne passera pas dans son activité professionnelle. Vous avez par exemple un très, très bon exemple de ministère qui fait aussi beaucoup pour le sport, c'est le ministère de l'Armée, au travers de l'Armée des champions. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est de l'ordre de 200 sportifs à l'heure actuelle, olympiques et paralympiques, qui sont en contrat avec l'armée et qui sont sportifs de haut niveau. Il faut être sportif de haut niveau pour bénéficier de ce contrat avec l'armée et rentrer dans cette armée des champions avec des aménagements qui leur permettent justement de mener à bien ce projet sportif tout en ayant un pied dans la vie active. C'est très important pour eux et pour leur après-carrière que finalement, voilà, ils se préparent aussi dès ces moments-là où ils sont encore évidemment sportifs en activité, qu'ils aient une immersion dans le monde du travail. Donc c'est à la fois, je trouve, voilà, un levier important qui les aide à préparer l'après-carrière, mais c'est aussi un levier qui leur permet de vivre au quotidien, d'avoir des sources de revenus. On parlait en début d'entretien des sports les moins médiatisés. C'est vraiment essentiel pour eux. Et ces montages sont un levier fort pour leur permettre de mener à bien leur carrière.
Alors, dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler de fabrique d'un athlète, de fabrique des athlètes, puisqu'on a vu justement que la carrière athlétique s'appuyait sur tout un processus, on va dire, d'encadrement de l'athlète et de mise en scène, on va dire, des choses qu'on peut avoir envie d'avoir, les médailles ou les choses comme ça. Est-ce que tout ça, on peut parler de fabrique d'athlètes ou est-ce que c'est un terme un petit peu fort ?
C'est un terme un petit peu fort. Alors nous, on l'utilise dans notre langage de sociologue, mais parce qu'en fait, quand on parle de la fabrique, en l'occurrence d'un champion ou d'une championne, derrière, en fait, on mobilise des travaux qui se réfèrent à la sociologie de la socialisation. Et donc, on part de l'idée que finalement, on va fabriquer un environnement, en l'occurrence familial, sportif, notamment amical, amoureux, contribue à façonner, à fabriquer les manières d'être, les manières de penser, les manières de faire de l'individu. Donc nous, dans notre langage de sociologue, effectivement, on parle de la fabrique, là en l'occurrence des champions, mais dans le langage de tous les jours, je n'emploierai pas ce terme. Je trouve que voilà, il peut choquer, je comprendrai qu'il choque. Voilà, je dirais pas voilà dans un langage courant qu'on fabrique le champion, mais voilà, d'une certaine manière, voilà, si on part du postulat que un individu, il se construit autour de certaines manières d'être, de certaines manières de penser, de certaines manières d'agir, et que ces manières d'être, de penser et d'agir sont socialement construites. Alors, si on sort même du cadre du sport de haut niveau, vous voyez bien dans la société, par exemple, que les garçons et les filles ne sont pas élevés tout à fait de la même manière. Donc, on ne fabrique pas, là je prends la casquette de sociologue, les garçons et les filles de la même manière. On ne les socialise pas de la même façon et on ne construit pas toujours chez eux les mêmes manières de faire, les mêmes manières de penser, les mêmes manières d'agir, ce qui peut expliquer d'ailleurs le fait que les garçons et les filles ne s'orientent pas vers les mêmes activités sportives spontanément. On voit bien que les goûts sportifs sont genrés d'une certaine façon. Donc pour revenir à votre question sur est-ce qu'un sportif, ça se fabrique, la réponse de la sociologue, c'est oui, parce qu'on va façonner ses manières d'être, de penser et d'agir, son rapport au corps dont on parlait tout à l'heure, son rapport à la blessure, son rapport au plaisir, son rapport à l'effort, à tout un tas de choses qui relèvent voilà, d'éléments qui sont importants pour construire de la performance. Voilà le pourquoi de ce terme, la fabrique des champions.
Alors, quels sont les éléments, Lucie Forté, qui vont faire qu'un athlète, même ayant de bons résultats, puisse être amené à quitter la carrière athlétique ?
Un premier élément, c'est quand ça va trop vite. On constate, en tout cas moi, sur mes terrains de recherche, j'ai pu constater que quand justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette série d'étapes objectives et subjectives, quand d'une certaine manière le jeune va commencer une activité sportive et j'ai presque envie de dire trop rapidement ou en tout cas très rapidement se trouver très performant, ça peut dans certains cas, c'est pas systématique bien sûr, être compliqué à gérer parce que finalement en particulier quand il se trouve surclassé et qu'en plus il va se retrouver avec des sportifs et des sportives plus âgés que lui, il peut finalement ne pas se trouver à sa place dans ce milieu dans lequel il est propulsé un peu trop rapidement. Avoir du mal à se trouver à sa place, avoir du mal à s'intégrer dans un collectif. Alors, c'est valable dans les sports co comme dans les sports individuels, hein, parce qu'il faut s'intégrer dans un groupe d'entraînement, dans une équipe de France, dans un collectif en stage. Donc, il y a cette problématique voilà, de l'intégration du jeune ou de la jeune sportive quand ça va très vite, qui peut poser problème. Et puis, il y a aussi, à un moment donné, ce dont je parlais sur la, voilà, les étapes subjectives. Par exemple, j'ai en tête, moi, une jeune championne qui était très performante quand elle était cadette, qui a fait des podiums à l'international, même au niveau mondial. Mais c'est arrivé très vite, en fait. En 2 ans, elle s'est retrouvée propulsée au plus haut niveau mondial. Et en fait, c'était une jeune fille qui avait du mal avec la mise en scène de son corps et notamment le fait de courir dans les tenues, voilà, dans lesquelles il est classique, entre guillemets, de courir quand on fait de l'athlétisme et qu'on est une femme, c'est-à-dire le bloomer, qui ressemble grosso modo à un maillot un peu large, et la brassière. Et donc, c'est un cas que je cite dans mon ouvrage, effectivement, dans mon livre, parce qu'on voit bien au travers voilà, des entretiens menés avec cette jeune sportive à quel point, en fait, cela a fait obstacle au déroulement de sa vocation, à l'adhésion, finalement, à l'enchantement chez elle de ce que c'était que de devenir une championne, et a vraiment fait obstacle à la progression dans cette carrière, le fait voilà, de devoir accepter d'une certaine manière de, Catherine Louveau dirait, de payer le coût, entre guillemets, de la médiatisation, entre guillemets, de la sportive qui souvent, encore aujourd'hui, se traduit par un travail d'érotisation de son corps, en tout cas de mise en scène, entre guillemets, de son corps, voilà, d'une manière plus ou moins explicitement érotisée, mais en tout cas qui peut poser problème à certaines femmes sportives qui ne souhaitent pas, entre guillemets, se mettre en scène de la sorte.
Alors aussi, quelles sont les difficultés financières des athlètes de haut niveau dans leur carrière ? Parce que contrairement au football, nombre de disciplines sont peu médiatisées et peuvent voire peu rémunératrices. Et encore, le football, c'est surtout pour les hommes, voilà. Alors comment l'athlète de haut niveau jongle-t-il avec cette nécessité pécuniaire ?
Eh bien, effectivement, c'est complexe de construire un projet de performance quand on n'est pas sur un sport professionnel. Et comme vous le disiez très justement, le foot est un sport professionnel, mais la réalité voilà, des carrières féminines et masculines est très, très éclatée. En effet, il est très compliqué de vivre de son sport quand on est une footballeuse professionnelle, encore aujourd'hui, même si nos footballeuses françaises sont particulièrement performantes et l'ont prouvé à diverses occasions dans les championnats internationaux. Donc, comment on fait ? Ben, alors, pour certains, c'est la précarité, hein, vraiment, véritablement. Ce sont des situations d'extrême précarité que vivent un nombre non négligeable des champions et des championnes qui vont participer aux prochains Jeux olympiques. Pour d'autres, il y a effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, des montages qui leur permettent, via leur statut de sportif de haut niveau, enfin, d'avoir finalement un contrat avec une entreprise ou d'avoir des aménagements de leur travail s'ils sont déjà fonctionnaires, par exemple, et qu'ils sont, je pense à des profs de PS, par exemple, qui vont potentiellement avoir un allègement de leur service d'enseignement. Je pense à cette armée des champions dont je vous parlais, donc des militaires qui vont aussi avoir des aménagements. Voilà, tout ça, évidemment, pour leur permettre de s'entraîner, parce qu'il faut avoir en tête, hein, dans la plupart des sports de haut niveau, on est sur des volumes horaires d'entraînement qui sont entre 20 et 35 heures par semaine, sans compter tout ce qui va avoir trait à la récupération, aux soins, kiné, ostéo, etc. Donc, en fait, c'est un métier à plein temps, le métier de champion. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance de faire des sports extrêmement médiatisés, bah, c'est soit la grande précarité, et c'est vraiment du système D, soit voilà, des aménagements qui permettent de mener à bien la carrière. Et puis, évidemment, après, il y a aussi, dernier cas possible, parmi les gens que vous verrez aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, vous avez évidemment des sportifs et des sportives qui sont très médiatiques et qui, du coup, eux, peuvent, d'une certaine manière, vivre dans une situation qui est beaucoup plus sereine parce qu'en fait, leur revenu ne dépend pas strictement de leur performance sportive. Leur revenu dépend aussi de leur performance médiatique. C'est Patrick Mignon qui disait ça dans un article qui date maintenant, mais qui fait encore référence. Finalement, le champion doit réaliser une double performance. Une performance sportive, bien sûr, mais pour pouvoir asseoir sa carrière voilà, sur une sécurité financière et pouvoir vivre de son sport, il doit aussi réaliser une performance médiatique qui sera, je dirais, le deuxième ingrédient qui conditionnera finalement ce qu'il va pouvoir retirer comme bénéfice économique. La performance sportive n'est pas le seul élément qui fait, entre guillemets, le salaire ou les revenus d'un sportif ou d'une sportive. Hein. Il y a aussi, bien sûr, une performance médiatique à réaliser. Et justement, ça, c'est quelque chose. Tiens, le sociologue, voilà, il arrive aussi pour dire, attention, voyez, le demi-dieu, voilà, pour revenir sur ce sur quoi vous m'interrogiez tout à l'heure, il n'est pas question seulement de qualité physique, en fait, et de talent ou de génie. À un moment donné, pour construire son projet de performance et surtout le mener à bien à l'âge adulte, c'est-à-dire à un âge où on vit plus souvent chez ses parents et où donc on a besoin de gagner sa vie, eh bien, voilà, il est aussi quelqu'un qui va apprendre, et souvent grâce à un environnement, encore une fois, hein, social, qui va apprendre dans ses interactions avec les autres, eh bien, à construire cette performance médiatique et à en tirer des bénéfices, en l'occurrence économiques, puisque c'était votre question.
Alors, vous parlez des conditions sociales de la réussite athlétique. C'est quoi ces conditions sociales ?
Nous, en fait, derrière cette idée de conditions sociales, il y a l'idée que, finalement, son environnement familial, son environnement sportif, les moyens qui sont mis à disposition par sa fédération, son environnement amical, éventuellement ses relations de couple aussi, constituent en fait un environnement social qui va agir comme un levier ou comme un frein au déroulement de son projet de performance.
Et en quoi le soutien familial est déterminant dans ces conditions sociales de la carrière ?
Ben, je vais vous donner un exemple, par exemple, sur un travail que j'avais mené sur la question de la blessure. Comment la blessure constitue un moment de rupture dans la carrière d'un sportif et peut, d'une certaine manière, fragiliser son sentiment de vocation, hein, sentiment de vocation dont on l'a vu tout à l'heure. Il est essentiel pour, finalement, construire l'engagement dans la carrière. Bon, ben, quand ton sportif est blessé, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, surtout si c'est une blessure qui dure, que ben, pendant 6 mois, 1 an parfois, il est mis à l'écart des compétitions. Donc il ne vit plus, entre guillemets, ces fameux moments de consécration dont je parlais tout à l'heure, qui sont très importants symboliquement parce qu'ils viennent marquer symboliquement le jeune champion de ce saut de voilà, l'institution sportive te reconnaît comme quelqu'un d'exceptionnel, qui a des qualités hors normes, qui voilà, vient de réaliser une performance, qui fait de lui un champion, un demi-dieu, un héros, pour revenir à toutes ces métaphores dont on parlait tout à l'heure. Bon, ben, quand il y a une blessure et quand il y a une blessure qui dure, le jeune ne vit plus ces moments de marquage symbolique. Et parfois, on observe que, au sein notamment de la famille, il continue à vivre ces moments de marquage. C'est-à-dire qu'il y a des petits mots qui sont échangés dans la famille, des choses qui sont dites par les parents, qui continuent finalement à construire cette idée qu'on croit en lui, qu'on sait qu'il va revenir. On va mettre en scène aussi ses médailles. Vous voyez, c'est frappant, par exemple, de constater quand on fait des entretiens chez des jeunes champions, il y a des familles dans lesquelles il y a des coupes et des médailles et des photos de l'enfant un petit peu partout dans le salon familial. Et il y a des familles dans lesquelles il n'y a absolument rien qui existe au sein des espaces communs. Et finalement, les médailles, les maillots de l'équipe de France sont dans la chambre du jeune quand, dans d'autres familles, le maillot, il est encadré, il est présent dans l'entrée, dans un couloir, enfin, etc. Et on voit bien comment là, en fait, la famille marque aussi symboliquement le jeune, lui donne parfois un statut à part au sein de la fratrie aussi, qui nourrit sa vocation et son envie, finalement, de se montrer à la hauteur. Hein. Derrière la sociologie de la vocation, il y a l'idée que finalement, il y a des institutions au travers des récompenses sportives et des médailles, mais il y a aussi des individus, les parents par exemple, qui vont marquer le jeune symboliquement et qui vont nourrir son devoir de se montrer à la hauteur des investissements dont on fait l'objet. Par exemple, dans le milieu de la natation, il y a des chercheurs qui ont montré que la natation, le projet de performance, il commence à se construire très jeune. On est très tôt dans des situations d'entraînement en bi-quotidien et les parents sont mis à contribution parce que il faut amener le jeune à l'entraînement quand il n'est pas encore scolarisé dans des sections sportives ou quand il n'est pas encore dans des pôles. Les parents, finalement, donnent de leur personne, de leur temps pour nourrir le projet de performance du jeune. Et on voit bien comment ça, hein, c'est ça qu'il y a derrière cette idée d'environnement social, là, en l'occurrence, la famille, est un levier, dans certains cas, avec cette idée que voilà, le jeune construit ce devoir de se montrer à la hauteur, et dans les moments où il connaît des crises de vocation, où il est dans le doute, où c'est un petit peu difficile, ben, c'est une ressource qui va l'aider à rester focus sur son projet de performance. Il y a un chercheur qui s'appelle Nicolas Lefebvre qui a travaillé sur les cyclistes, qui montre aussi, voilà, les vélos, ça coûte cher. Et dans certaines familles, ça nécessite un sacrifice financier que d'équiper, entre guillemets, le jeune d'un vélo performant. Et on voit bien, il voit bien, voilà, au travers des entretiens qu'il a menés avec ces jeunes, comment ce sacrifice financier voilà, consenti par certains parents construit, nourrit aussi ce devoir de se montrer à la hauteur des investissements dont on a fait l'objet. Donc il y a l'institution sportive qui investit. Je veux dire, à un moment donné, quand on voilà, ben, vous propose un aménagement, par exemple, de votre temps de travail, que vous rentrez dans l'armée des champions, ça nourrit ce devoir de se montrer à la hauteur des investissements dont on a fait l'objet. Donc cet environnement social, ce sont des institutions, l'armée, une fédération, par exemple, mais ce sont aussi des parents, des amis, des entraîneurs, des individus aussi qui nourrissent la vocation et notamment ce devoir de se montrer à la hauteur. Je pense aussi à tous ces commentaires qu'on peut lire sur les blogs. J'avais travaillé là-dessus un petit peu à l'occasion de certains championnats du monde, ce qu'écrivent finalement des fans ou des, voilà, des spectateurs aux sportifs. Hein. On voit bien d'ailleurs quand une équipe de France est championne du monde, c'est toute la France qui est championne du monde, en fait, d'une certaine manière. Donc, il y a aussi voilà, cet environnement social. C'est aussi un pays, en tout cas des supporters. Et encore une fois, si on revient à votre première question sur les Jeux Olympiques en France, qu'est-ce qui fait que voilà, souvent les sportifs sont particulièrement performants quand la compétition a lieu dans leur pays? C'est qu'ils sont aussi portés par cet environnement social, c'est-à-dire un public qui nourrit leur vocation également.
Alors, dans votre livre « Devenir athlète de haut niveau », vous faites le constat que la femme dans le sport est soit décrite comme n'étant pas une vraie femme, sous-entendu trop masculine, on va même jusqu'à faire des tests de féminité lorsqu'elles font des exploits hors normes, soit la femme dans le sport est plus décrite dans les médias, notamment par ses atouts physiques des canons féminins. Comment vous expliquez? Est-ce que vous pouvez peut-être, avec vos mots, redire un petit peu voilà ce que vous avez constaté dans vos études par rapport à l'image des femmes dans le sport?
Oui, alors moi, je suis pas, dans mes études, je suis pas, c'est pas mon entrée. Je renverrai plutôt aux travaux d'Anaïs Bouillon, par exemple, sur ces questions, ou de Christine Menson, entre autres. Hein. C'est-à-dire que, en gros, hein, pour aller vite, la construction du masculin et du féminin dans notre société, finalement, amène à une équation voilà, normalisatrice d'une certaine manière, sport égale masculinité, c'est-à-dire que quand on est un homme et qu'on fait du sport et qu'on est performant, finalement, on renforce une identité masculine parce que bah, derrière le registre du masculin, c'est la performance, la combativité, l'agressivité, etc. Donc, d'une certaine manière, voilà, il y a une espèce de relation qui se fait entre sport et masculinité. Et d'ailleurs, voilà, ce qu'ont très bien montré les historiens du sport, par exemple Thierry Théré, c'est que finalement, le sport, au départ, a été inventé pour finalement former des hommes, en fait, éduquer une jeunesse, mais a d'abord été pensé pour éduquer une jeunesse masculine et former des corps masculins, etc. Hein, et les travaux, justement, en histoire du sport et qui s'intéressent au développement du sport féminin montre bien à quel point les résistances ont été fortes au XXe siècle, hein, lorsque des femmes ont commencé à revendiquer leur souhait d'être sportives et de pratiquer des compétitions sportives comme, j'ai envie de dire, leurs homologues masculins. Hein. On a tous en tête, voilà, cette coureuse qui avait fait le marathon de Boston et qui s'était vue empêchée, entre guillemets, mais qui n'avait pas lâché, entre guillemets, pendant sa course. Enfin, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça ne remonte pas au début du XXe siècle. La pénétration des femmes dans l'univers du sport de compétition est quelque chose qui a pris du temps et dont on retrouve encore des traces aujourd'hui dans la manière dont finalement certaines sportives sont considérée. Encore une fois, je renvoie aux travaux de Christine Manson ou d'Anaïs Bohuon, par exemple sur les questions de tests de féminité pour Anaïs Bohuon, parce que finalement, d'une certaine manière, à l'inverse des hommes pour qui être sportif renforce finalement cette équation normalisatrice masculinité égale sport, eh bien chez les femmes, féminité finalement vient d'une certaine manière en opposition aux valeurs qui sont traditionnellement associées au sport de compétition, c'est-à-dire la force, la puissance, la musculature, la performance, l'agressivité, la combativité, etc. Donc du coup, c'est vrai que dans les travaux qui sont menés sur ces carrières sportives féminines de haut niveau, on observe souvent que la femme est soit la femme championne, et soit reléguée à la femme bel objet, c'est-à-dire en gros, certes, elle est performante, mais on lui demande aussi et surtout d'être belle, jolie, mignonne, etc. Et puis, dans d'autres cas, elle ne va pas être cantonnée à ce rôle de femme bel objet, elle va au contraire être questionnée dans son identité de femme. Alors, la manière la plus violente, évidemment, de questionner son identité de femme, ce sont ces tests de féminité, mais on peut trouver d'autres, finalement, traces de ça, hein, de ces questionnements de leur identité en tant que femme, dans des procès de virilisation qui peuvent être faits à l'égard des sportives. Pour les moins jeunes d'entre nous, vous avez peut-être en tête les guignols de l'info, à l'époque où Amélie Mauresmo, voilà, était tenniswoman et faisait partie des meilleures mondiales de sa spécialité, bah, la marionnette des guignols de l'info, la représenter avec une musculature très imposante, complètement caricaturale d'un corps masculin en fait, et pas du tout féminin, et avec une voix très grave. Enfin voilà, on voyait bien comment au travers de cette caricature, on était là finalement dans une forme de procès de virilisation en fait, de la sportive et de questionnement de sa féminité en réalité.
Alors Lucie Forté, quels sont les différents tournants à travers le temps de l'État français dans le suivi, la prise en charge des sportifs de haut niveau ?
Je ne suis pas historienne, donc je ne saurais pas vous le décrire dans une perspective voilà, plus historique, mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est que l'État français, si on le compare à d'autres pays européens ou internationaux, est très investi dans la construction de l'expertise sportive. Hein. Si on prend par exemple la culture anglo-saxonne, par exemple l'Angleterre, la Grande-Bretagne, enfin, on n'est pas du tout sur un modèle avec un État fort qui subventionne, qui participe. C'est beaucoup plus, en fait, ce sont beaucoup plus les familles, en fait, qui financent, entre guillemets, cela. C'est-à-dire qu'en France, quand même, assez rapidement, quand vous êtes repéré par une fédération, voilà, comme ayant un potentiel, eh bien, vous rentrez dans un circuit, thème des pôles, notamment des pôles Espoir et des pôles France, qui font que c'est pas vous qui allez financer, entre guillemets, vos entraînements. Vous allez pouvoir bénéficier de conditions d'hébergement au sein desquelles, voilà, si votre niveau le permet, si votre fédération est en mesure, voilà, de participer aux frais d'hébergement, voilà, votre famille va payer une partie seulement de ces frais. Alors que dans beaucoup d'autres pays, en fait, c'est le sportif qui se finance, et donc quand il est jeune, ce sont ses parents qui financent sa formation. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'en France, on constate quand même que dans certains sports, voilà, malgré tout, c'est pas la même chose de faire de l'athlétisme et de faire du ski, par exemple. Hein. C'est-à-dire que dans l'athlétisme, il y a assez peu à investir financièrement de la part des familles pour former, entre guillemets, pour forger l'excellence sportive. Dans le ski, c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, l'État français, au travers de ses pôles, Pôle Espoir, Pôle France, au travers de la manière aussi des conventions qui sont mises en place avec les fédérations et de ce statut, les professeurs de sport, à ne pas confondre avec les profs d'EPS, hein. Professeur de sport, c'est un statut dans la fonction publique qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Une partie d'entre eux sont mis à disposition des fédérations et donc contribuent d'une certaine manière. Alors, ils ne sont pas seulement mis à disposition des fédérations sur le sport de haut niveau, hein. Ils sont aussi mis à disposition des fédérations pour construire aussi le sport pour tous, enfin d'autres éléments qui font la culture sportive dans notre pays, hein, sportive au sens large du terme. Mais en tout cas, voilà, l'État français est très présent dans la formation de l'excellence sportive.
Et donc, en fait, cette force de l'État, selon vous, c'est quoi ? C'est justement, ça permet sociologiquement à des personnes, on va dire, d'une échelle sociale basse, de devenir aussi sportives de haut niveau, ce qu'on peut ne peut-être pas forcément retrouver de la même manière dans d'autres pays. Quelle est la force de cet interventionnisme d'État à la française ?
Oui. C'est tout à fait juste de le présenter de cette manière-là, c'est-à-dire que effectivement cet interventionnisme étatique très fort en France finalement est un élément qui contribue à réduire les inégalités d'accès au sport d'une manière générale et aux carrières sportives de haut niveau en particulier. C'est vrai que j'ai en tête une étude, mais qui date, hein, je crois, de la fin des années 90, si ma mémoire est bonne, qui avait été une étude comparative, en fait, qui comparait plusieurs pays, la France, la Suisse et je ne sais plus s'il y avait l'Allemagne et peut-être, oui, sans doute, la Grande-Bretagne. Je ne suis pas très précise, en tout cas, sur les pays, mais ce dont je me souviens, c'est qu'en effet, les chercheurs avaient constaté que les origines sociales, en fait, de leur élite sportive, en fonction des pays, n'étaient pas du tout les mêmes. Et en particulier, je me souviens qu'en Suisse, il y avait beaucoup d'enfants, de commerçants, de gens qui étaient plutôt sur des emplois qui avaient trait à l'entrepreneuriat, et puis à des milieux sociaux qui étaient assez loin des classes populaires, quand effectivement en France, finalement, ces milieux sociaux étaient beaucoup moins représentés et qu'il y avait à l'inverse une part plus importante de sportifs dont les parents occupaient des positions sociales effectivement moins hautes, si tant est qu'on puisse parler en ces termes, dans la hiérarchie des positions sociales, c'est-à-dire qui appartenaient plutôt aux classes populaires. Mais pour revenir à ces questions de classe sociale, quand même, on observe que effectivement en France, on a une part assez remarquable de champions et de championnes qui viennent des classes populaires, mais qui ne viennent pas, entre guillemets, de toutes les fractions de la classe populaire. On observe qu'ils sont plutôt issus des fractions stabilisées, des classes populaires, et pas des fractions les plus précaires.
Alors, avec l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024, la France souhaite développer une culture du sport plus large et espère des répercussions sur l'ensemble de la société dans sa manière de penser le sport. Alors, est-ce que vous pensez que ce grand événement va changer la vision de la société française autour du sport ?
Alors, changer la vision de la société française autour du sport, c'est bien ambitieux. Non, je pense en tout cas que c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, le sport, entre guillemets, le sport tel qu'il, entre guillemets, est pensé, notamment dans les politiques de santé publique, c'est pas du tout le sport de haut niveau. C'est un sport modéré dans son intensité, qui n'a pas nécessairement du tout, même rarement, une finalité compétitive. Donc c'est un peu paradoxal parce que les Jeux Olympiques, voilà, ça met en avant un sport parmi tous les possibles, en fait. Si on définit le sport au sens large du terme, voilà, y a évidemment le sport de compétition qui est notamment symbolisé par cet événement planétaire que sont les Jeux Olympiques. Mais après, le sport, c'est aussi, pour certains, aller faire un footing le dimanche matin ou, faire du yoga ou faire tout un tas d'activités qui n'ont pas du tout cette finalité compétitive. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure un événement très centré sur finalement une modalité de pratique du sport, le sport licencié, le sport compétitif, qui est, quand on fait des enquêtes sur les pratiques sportives des Français, en réalité, ce que pratiquent une minorité de Français, hein, la plupart des Français qui font du sport au sens large du terme ne sont pas licenciés dans des clubs affiliés à des fédérations olympiques et ne sont pas dans une logique de performance et de compétition. Donc je ne sais pas dans quelle mesure, je ne saurais pas répondre à votre question dans le sens où c'est pas, je ne travaille pas du tout sur ces sujets, mais en tout cas, force est de constater que les Jeux olympiques, ça représente un sport parmi d'autres. Et peut-on dire que cela aura des retombées sur l'ensemble des modalités de pratique des sports? Ça va dépendre un petit peu de la manière dont l'État, les politiques publiques vont s'emparer de l'événement et communiquer autour de quelque chose qui va finalement peut-être nécessiter de faire un pas de côté par rapport au sport compétitif et fédéral pour finalement promouvoir aussi d'autres manières de faire du sport. D'une certaine manière, quand même, derrière une volonté, par exemple, de faire venir voilà, des sportifs entre guillemets ordinaires, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a des choses qui s'ouvrent sur ces questions. Est-ce que cela sera suivi entre guillemets d'effet et est-ce que ça va faire changer votre question, amener à une évolution de la manière dont les Français se représentent tout cela? Ce sera intéressant d'aller voir ça ensuite par des enquêtes plus établies, mais ce ne sont pas des choses que j'étudie particulièrement.
C'était Rencontre avec Lucie Forté. Devenir athlète de haut niveau. Un entretien réalisé par Agnès Gontier. Lucie Forté est sociologue, maîtresse de conférences au laboratoire du CRESCO de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à vous procurer son livre « Devenir athlète de haut niveau » publié en 2020 dans les éditions L'Harmattan. L'émission vous a plu? Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr. Résonance Sonore, un média de proximité en Occitanie.